La question du fameux docteur Alexis Carrel. Le docteur Alexis Carrel, qui est mort en 1944, et qui est un converti qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il était prix Nobel, chirurgien, biologiste. Il a fait carrière à New York, mais c'est un Français très connu pour ses ouvrages, en particulier « L'homme, c'est inconnu ». Mais aussi pour son fameux livre « Le voyage de Lourdes » où il raconte son aventure. Un livre qui s'est beaucoup vendu aussi sur la prière. Et un livre qui est moins... que j'hésite à mentionner, enfin, « Réflexion sur la conduite de la vie » parce qu'on y trouve des choses un peu curieuses. Donc, le docteur Alexis Carrel, un humaniste chrétien, donc prix Nobel en 1912, très tôt. Et il y a une vie de lui qui a été écrite il y a déjà bien longtemps que l'on ne trouve plus par Henriette Delay Didier Delorme. Mon Dieu, trois noms de famille. C'est bien fait. C'est mettre un peu les choses au point. Et mais je sais qu'il y a des ouvrages probablement plus à jour. Moi, j'ai un texte du père Albert Bessière qui résume bien la vie du docteur Alexis Carrel, qui est très connu, donc. En 1935, est paru donc celui que je viens de mentionner, « L'homme, c'est inconnu », et c'est un événement littéraire. C'est un immense succès de librairie, on le traduit dans toutes les langues. Et on peut dire, avec le père Bessière, que le vieux matérialisme bourgeois de Renan, qui avait fait ses ravage à l'époque, qui était devenu un peu comme, on peut dire, une religion, en particulier des communistes et de bien des gens même de ce côté-ci de ce texte rideau de fer. Eh bien, le matérialisme bourgeois avait été mis à mal par Henri Bergson et là, cette fois-ci, il reçoit un solide coup avec l'homme cet inconnu. Et c'est un physiologiste qui le donne, c'est un prix Nobel, donc, comme je vous ai dit, un médecin, un chirurgien qui est universellement célèbre, qui est déjà entré dans la légende, docteur Alexis Carrel. Mais qui est donc ce prix Nobel? Eh bien, Alexis Carrel, c'est un Lyonnais, donc, né à Lyon, de vieille souche. Il est né, en fait, en banlieue où je suis déjà allé, à Sainte-Foy-lès-Lyon. C'est là qu'il y a un centre d'enseignement des moyens de communication en France. On m'avait demandé de donner des cours. Il est né là en juin 1873. Et il passe là ses vacances. Mais il habite le reste de l'année à Lyon avec sa mère et son jeune frère, Joseph, puis sa petite sœur, Marguerite. Son père, c'est un industriel. Mais il est mort en 1877, et le pauvre Alexis n'avait que 4 ans. Alors, sa mère, Madame Carrel, s'est consacrée à l'éducation de ses 3 jeunes enfants. Elle est secondée par ses frères qui appartiennent à la bonne bourgeoisie de Lyon. Il y a un milieu très bourgeois là-bas, puis on y mange très bien. Des restaurants absolument fabuleux, reconnus mondialement à Lyon. C'est un milieu aisé et cultivé, et chrétien. Alexis, donc, après avoir terminé son cours classique chez les jésuites, ou ses humanités, comme on dit en France, les jésuites de la rue Sainte-Hélène, là, il commence ses études médicales à la faculté de médecine de Lyon. C'est un élève brillant. Il est très personnel. Il est doué d'un sens d'observation extraordinaire. Hein. Il a des yeux, dit-on, jusque derrière la tête. C'est ce que ses amis disent. Et pourtant, c'est un penseur, ce penseur qui ne s'en laisse pas imposer, qui sur le terrain scientifique sait tenir tête, même à ses maîtres. Il subit, comme ses contemporains Charles Nicolle et le comte Dunouis, l'influence matérialiste du milieu. Hein, je vous ai parlé de Charles Nicolle, c'est l'émission 217. Je donne les numéros parce qu'il y en a qui veulent les commander à Marc Alexandre. Je donnerai le numéro de téléphone à la fin de l'émission. Alors, Charles Nicolle, je l'avais fait le 28 février 1996, numéro 217. Et le comte Dunouis, bien, je viens de le faire le 22 septembre, numéro 687. Alors, les thèses des inventeurs du positivisme matérialiste font la loi. à Lyon, hein, c'est Taine, Berthelot, Renan, etc., comme à Paris. On les croit sur parole. Ils prétendent que la science explique tout, Dieu n'existe pas, tout vient en somme du vide. Il y a même un numéro de Science et Vie qui est paru il n'y a pas longtemps, que le vide a engendré la matière. Ben, le néant. Le néant a tout fait. C'est invraisemblable. Et les résultats, bien après quelques années d'études médicales, Carrel a perdu la foi. Il est devenu ce qu'on appelle non pas un scientifique, d'accord, mais un scientiste, sur le plan philosophique, c'est un scientiste convaincu, c'est-à-dire quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, qui se concentre sur la matière et qui croit que la matière explique tout. Alors il affirme sans sourciller, « Nulle certitude n'est valable en dehors des faits scientifiques constatés. » Nulle certitude n'est valable en dehors des faits scientifiques constatés. Ils iront même jusqu'à mettre en doute l'existence de Jésus-Christ, puis toutes sortes d'affaires. C'est absolument insensé. Il faut des preuves concrètes pour tout. Je me demande s'ils pouvaient expliquer l'amour. Comment ça se fait qu'un homme aime une femme et qu'une femme aime son mari? Enfin, donc, parce qu'on ne peut pas toucher à ça, hein? C'est difficile d'analyser scientifiquement l'amour. Donc, ces grands problèmes humains qui n'ont cessé de tourmenter l'humanité, le Dieu, l'âme spirituelle et immortelle, même le miracle, la loi morale, qui est codifiée dans le Décalogue, je vous en ai parlé, il me semble, le 4 septembre, en parlant de Moïse, pour eux, ce sont des pures hypothèses dénuées de valeur rationnelle. Mais comme Alexis Carrel va l'avouer dans ce livre paru après sa mort, Le Voyage de Lourdes, eh bien, il a beau affirmer son agnosticisme, son cœur et sa raison protestent contre le désert où il s'est plongé. C'est un désert lunaire que celui de l'agnosticisme et de l'athéisme en particulier. Je ne les blâme pas. Je suis plutôt porté à leur tendre la main. Même à les aimer davantage. Car ça ne doit pas être facile. Il va lui falloir quand même, à Alexis Carrel, une quarantaine d'années pour retrouver le trésor de la foi. Qu'il sacrifie comme si ce n'était rien, si légèrement, hein, si on fait ça jeune, paraît-il. Que de temps perdu, dit-il, que j'aurais pu employer si utilement. C'est vrai, hein? On perd sa vie. Quand on pense qu'elle n'a aucun sens. Alors, c'est que Alexis Carrel, alors que sa passion pour la science ne le rassasit, ça lui fait absorber volume sur volume, il n'est jamais rassasié, il multiplie les expériences. Il consulte les maîtres, les spécialistes, toujours la science, la science, la science. Eh bien, il ne paraît pas se désintéresser que d'une science, de la science la plus importante. Il cherche quand même. Il le constatera dans son journal et ses méditations. La science de l'homme, de l'âme, de Dieu, puis de la destinée, elle est toujours là au fond de lui-même, mais il est pris par la science. En tant que tel. Parce que la science de l'homme, de l'âme, de Dieu, de la destinée que nous avons, c'est la science essentielle, et sans elle, c'est le désert. Et c'est pourquoi Radio Ville-Marie existe. Vous venez d'entendre ce témoignage de cette jeune fille avec l'abbé marié, c'était si beau. C'est comme ça très souvent, Radio Ville-Marie. Où trouverez-vous dans nos moyens de communication? Radio, télé, journaux, les plus connus. Cette science profonde qui manque alors au docteur Alexis Carrel. Son information demeurera donc là-dessus, celle d'un bon écolier qui a appris tout simplement son catéchisme de première communion et qui l'a suivi sans effort personnel d'assimilation, quelques cours de religion. Il connaît pas grand-chose finalement. On ne va pas bien loin avec un tel bagage. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Heureusement, je vous répète, Radio Ville-Marie est là. Si vous voulez en profiter, il y a des émissions de toutes sortes. à côté des maîtres de la médecine, de la physiologie. Il devrait avoir sur sa table de travail les meilleures pages de Bossuet, de Saint-Augustin, de Pascal, un bon ouvrage de théologie, une bonne vie du Christ, mais il n'en est rien. Il ignore tout ça. Comme tant de savants aujourd'hui, puis tant d'intellectuels, puis tant de journalistes et tant de gens. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, une étude quotidienne de la religion est en cette année 1890, là, dans ces années-là, vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que les pontifes du positivisme, comme aujourd'hui les pontifes du matérialisme, règnent dans les milieux scientifiques. Comme ici, on a certains personnages, hein, je le mentionne, Jacques Godbout, qui a lutté sans cesse et sans arrêt. Puis on a tous ces noms, ils font des choses intéressantes. Parfois, je lis leurs articles, bon, les Martineau, les Jean Barbe, les Folliard. Bon, on les aime bien quand même, mais mon Dieu, quand ouvriront-ils leur cœur, hein, et leur esprit? Nos maîtres matérialistes nous ont menti. Écrira un jour le comte de Nouy. Carrel, au sommet de sa carrière, fera la même constatation. Mais en attendant, bien, Carrel absorbe, l'homme farouchement indépendant, ce que lui présentent des sectaires, en fait, sans se préoccuper de leur opposer quoi que ce soit. Il s'empoisonne sans le savoir. C'est ce qui arrive. Et le grand malheur de cette génération, là, il y a 100 ans, est là. Elle s'est laissée voler sa foi, sans songer à la protéger, à la défendre sérieusement, et c'est tout à fait ce qui se passe ici chez nous, en Occident et au Québec, un peu partout, en cette fin de millénaire. En 1903, âgé de 30 ans, docteur en médecine, professeur d'anatomie à la faculté de Lyon, bien Alexis Carrel, le docteur Alexis Carrel, accepte d'accompagner à Lourdes un train de malades, et c'est une corvée, dit-il. Mais il s'agit de remplacer un collègue qui est empêché. Il s'agit de lui rendre service, alors. D'ailleurs, sans dissimuler sa mauvaise humeur, Alexis Carrel est heureux de profiter de l'occasion de critiquer de près les histoires de miracles de Lourdes dont il se moque. Et là, les catholiques parlent de miracles, dit-il. Évidemment, ils se trompent. Des maladies nerveuses, ont pu être plus ou moins guéries par le fait de la suggestion qui se dégage d'une foule en prière. Alors, le docteur Charcot, lui, réalise des miracles, dit-on, de ce genre-là. Et puis, il y a les fakirs, hein, on le sait. Alors, Lourdes, Lourdes. Mais il y a autre chose, objecte un camarade de collège qui fait le même pèlerinage. Il dit à Carrel des cas de cancer, de lupus, de tuberculose, de luxation, des fractures, une cécité congénitale, étudiée minutieusement au bureau des constitutions, des constatations par des médecins de tous les pays, croyants et incroyants. Eh bien, tout ça, c'est guéri. Impossible, réplique Carrel. Alors, impossible, lui dit Carrel à son confrère. Les miracles sont impossibles. Il ajoute, les constatations ont dû être mal faites, avant, pendant ou après, puis le miracle n'a pas été jusqu'ici constaté scientifiquement, hein. Il est d'ailleurs absurde, car les lois de la nature sont immuables. Les lois de la nature sont immuables. Oh, il ajoute, certes, aucun argument ne peut rien contre la réalité d'un fait, mais qu'on me mette en présence d'un fait et je m'inclinerai. Car elle a trop parlé. Comment on dit? Parce que Dieu l'attend. Dieu l'a étrangement choisi pour proclamer plus tard ce qu'il verra. Son rôle se borne donc à être à Lourdes un bon instrument enregistreur, fait abstraction de ses opinions, après son retour, il conclura, et c'est ce qu'il se dit, il conclura. Dans son ouvrage posthume, publié par sa femme, Le Voyage de Lourdes, Alexis, sous le pseudonyme de son nom renversé, il se fait appeler le docteur Lérac, hein, Carrel à l'envers, Lérac. Il raconte dans la première édition, là, puis dans les autres aussi, avec beaucoup d'humour, son pèlerinage. Il en décrit les personnages, hein, le vicaire général, la dame patronesse, les curés, les infirmières, et les pauvres malades qui, au chant des ave, vous savez, vont demander leur guérison, puis... Leur guérison est évidemment impossible à ses yeux. Or, son attention est attirée par une malade. Une jeune agonisante, Marie Ferrand, de son vrai nom, Marie Bailly, dont je vous ai déjà parlé. Le 8 septembre 1995, c'est le numéro 95 de toute la série de rencontres spirituelles. Et c'est arrivé, c'est un 8 septembre 1903. Elle est atteinte de péritonite tuberculeuse au dernier stade, cette pseudo-Marie Ferrand, de son vrai nom, Marie Bailly. Les parents sont morts tuberculeux, les chirurgiens ont abandonné la patiente, puis ils ont refusé de l'opérer. Alors le docteur Alexis Carrel examine de près la mourante. Il confirme pleinement le diagnostic de ses confrères, puis déclare à son ami, écoutez bien ça, « Je crains qu'elle ne meure entre mes doigts. Mais si celle-là guérissait, ce serait vraiment un miracle. » Je croirais à tout et je me ferais moine. On parlait beaucoup dans ce temps-là d'entrer à l'abbaye de Solesmes ou de l'abbaye de Ligugé, chez les bénédictins. Dieu va répondre à son défi. Oui. Arrivée à Lourdes, Marie Bailly, Marie Ferrand, se meurt. Carrel la soigne. Il note scrupuleusement l'évolution du mal. Il déconseille un bain aux piscines froides, là, qui normalement la tuerait. On se contente donc de quelques lotions. Puis on transporte la mourante sur un brancard devant la grotte de la Vierge Marie, là où elle est apparue, la Vierge, en 1858, à Lourdes. Alexis Carrel l'accompagne avec son camarade. Il murmure... Ah, que je voudrais, comme tous ces malheureux, croire que vous n'êtes pas seulement une fontaine exquise, créée par nos cerveaux, ô Vierge Marie. Guérissez donc cette jeune fille. Elle a trop souffert. Permettez-lui de vivre un peu. Et faites-moi donc croire. Il ne croit pas, mais il a la simplicité de prier quand même. Il est quand même sincère et honnête, hein? Et soudain, il se croit halluciné. Sous ses yeux, écoutez bien, sous ses yeux... La mourante ressuscite, ses traits se colorent, le pouls devient normal. Le ventre extraordinairement ballonné de la malade diminue peu à peu de volume sous ses yeux. Écoutez bien ça, oui, écoutez ça. Avec son stylo, le docteur Alexis Carrel note l'heure exacte sur sa manchette. 2h40. À 3h, la résurrection est un fait accompli. Et Marie Bailly dit, « Je suis guérie. » On lui donne une tasse de lait. La douleur, la tuméfaction ont disparu. Le docteur Alexis Carrel se trouve en face d'une mourante redevenue normale, seulement affaiblie. Il est 4h. Alexis Carrel écrit, « C'était la chose impossible, c'était la chose inattendue. C'était le miracle qui venait de se produire. » Fantastique. Au cours de la soirée et de la nuit, il étudie le cas, note les détails. Deux autres médecins ajoutent leurs constatations aux siennes. Il interroge la miraculée. Qu'allez-vous faire à présent, madame? J'irai chez les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul. Je serai reçue par elles et je soignerai les malades. À la fois très heureux, mais bien ennuyé de toute cette aventure, Alexis Carrel, après avoir erré dans la nuit, pénètre dans la basilique de Lourdes. Il s'assoit à côté d'un vieux paysan, met la tête dans ses mains et se met à prier pour vrai, pour la première fois. Vierge douce, secourable aux malheureux, qui vous implore humblement, gardez-moi. Je crois en vous. Vous avez voulu répondre à mon doute par un miracle éclatant. Je ne sais pas le voir, et je doute encore. Mais mon plus grand désir et le plus supérieur de toutes mes aspirations est de croire. Alors, c'est pas encore la conversion. C'en est la préparation lointaine. À Carrel, il va falloir de longues années, oui, bien des recherches et des souffrances pour se libérer. C'est pas facile toujours la conversion, hein. Un miracle n'a jamais à lui seul, d'ailleurs, converti personne. La résurrection de Lazare, souvenez-vous, dans l'Évangile, n'a pas converti les pharisiens. La constatation des plus éclatants miracles n'a pas converti Émile Zola, sauf à la fin de sa vie. Une conversion est le fait de la grâce qui respecte la liberté et suppose une humble prière. Il faut quoi? Se jeter à genoux. Il faut crier. Comme je vous dis souvent, Esprit Saint, prends-moi. Dans ce temps-là, le scientisme avait commencé par nier le miracle, sa possibilité, au nom des lois immuables de la nature. C'est-à-dire que le positivisme de Taine, de Berthelot, de Renan, le délogé de ses positions, s'est tourné vers la thèse des forces inconnues. Et c'est bien sûr que nous ne savons pas tout, que nous savons le tout de rien, finalement. Nous savons pourtant quelque chose. Il me semble. Sinon, la médecine, la science sont pure charlatanerie. Et nous savons quoi? Nous savons que 3 gouttes d'eau naturelle ne suffisent pas à rendre la vue à un bébé aveugle de naissance. Oui, parce que c'est de l'eau naturelle qu'il y a dans les piscines et l'eau de Lourdes, c'est de l'eau naturelle. On en met 3 gouttes sur les yeux d'un bébé aveugle de naissance et il guérit. Comment ça se fait? Est-ce que c'est assez clair? Le docteur Alexis Carrel n'a pas compris non plus la vraie nature du miracle. Un miracle n'est pas une explosion de la toute-puissance divine, mais un signe très doux, par lequel Dieu, oui, répond à nos appels. C'est comme s'il disait « Je suis là, je vois, j'entends ». Prenez donc conscience que vous êtes tous des miracles déjà. Comme le notait saint Augustin, rendre la vue à un aveugle, multiplier 5 pains pour nourrir 5 000 hommes, dans l'Évangile, est un moindre prodige que simplement faire lever les moissons. Oui, au printemps, toutes les moissons qui lèvent, ou faire naître, dit saint Augustin, avec leurs yeux, des myriades de vivants. Comment ça se fait que nous avons des yeux pour voir et des cerveaux qui fonctionnent? Est-ce qu'on y pense assez à ce que saint Augustin a dit il y a plus de 1500 ans? Nous sommes tous des miracles, je vous le répète, mais l'accoutumance rend les esprits superficiels insensibles à ces faits. L'horloge fait oublier l'horloger, comme on dit. Et voilà pourquoi Dieu accomplit ses moindres prodiges, les miracles, qui frappent notre attention de temps en temps par leur caractère exceptionnel. Mais attention, il y a de faux miracles, et soyons prudents. Ne courons pas ici, là, pour s'imaginer qu'il y a des miracles partout. Soyons tout simplement intelligents. Ayons du sens commun. Et pendant que les prodiges diaboliques se développent dans un climat ostentatoire, amoral ou immoral, n'oublions jamais que les miracles authentiques, eux, ne tendent qu'à la conversion, à la sanctification de ceux qui en sont témoins. Alors, bouleversé, le docteur Alexis Carrel retourne à Lyon avec le choc de Lourdes. Il prépare son concours de chirurgien des hôpitaux. Il a 30 ans, n'est-ce pas? Et dans un article loyal, en plusieurs conversations avec quelques professeurs, ses juges de demain, il expose les faits dont il a été témoin à Lourdes. Miracle, miracle? On dit jeu de forces inconnues. Il ne formule aucune conclusion, lui. Il ne dit pas que c'est un miracle, mais ses interlocuteurs sectaires lui déclarent inutile, docteur Carrel, d'insister. Avec des idées pareilles, vous n'avez rien à faire parmi nous. Alors on voit là le parti pris des incroyants, qui ne veulent rien savoir. Ils sont bouchés, comme on dit vulgairement. Oui, je le dis. Mais le second incident, c'est que devant ses examinateurs, Carrel a l'audace d'exposer sa première grande découverte relative à la suture des vaisseaux sanguins, pour montrer qu'il est un vrai médecin. L'artère d'un chien a été tranchée, au lieu d'emboutir les deux bouts, comme le pratiquent ses maîtres, ce qui paralyse la circulation, bien, Alexis Carrel imagine de coudre ces deux bouts. Alors, le stoppage est parfait et le sang reprend sa course sans encombre. Alors, ça fait que les mandarins, oui, de la médecine, qui n'aiment pas recevoir des leçons, ne se gênent pas. Ils détestent les inventeurs et les précurseurs, et Alexis Carrel est recalé à l'unanimité, croyez-le ou ne le croyez pas. Mais il a du caractère, oui, il a du caractère. Alors, les médecins de Lyon le repoussent, il part pour les États-Unis en mai 1904. Il est accueilli à bras ouverts aux États-Unis. Il est choisi à l'unanimité pour diriger le laboratoire de chirurgie expérimentale de l'Institut de recherche médicale, fondé à Rockefeller sur le bord du fleuve à New York, et il y multiplie les découvertes sur la survivance des cellules et la réparation des tissus par la greffe. C'est un grand savant. Écoutez aujourd'hui la vie du docteur Alexis Carrel, ce personnage merveilleux, qui a fait des découvertes extraordinaires, hein. On raconte qu'un chat qui vit avec le rein d'un autre chat, bien, il a fait ça, lui, dans son temps, au début du siècle. On pense que ce sont des merveilles nouvelles. Un chien marche avec la jambe d'un autre chien, il a fait ça. Il a fait aussi qu'un cœur de poulet placé dans un bocal et aspergé par un liquide qui le nourrit, là, vit de 1912 à 1940. Ça fait que le cœur de poulet a 28 ans. Alors, on peut dire que le cœur de poulet meurt de vieillesse. Alors, déjà en 1912, le prix Nobel récompense les découvertes du docteur Alexis Carrel. Il a 30 ans, seulement 30 ans. En 1914, 2 ans plus tard, c'est la guerre. Alexis Carrel retourne à Lyon pour servir son pays. Il était aux États-Unis. Les grands Manitous n'ont pas des armées à Lyon dans la médecine. Heureusement, grâce à l'intervention des États-Unis, le docteur Carrel est appelé à diriger l'hôpital fondé à la lisière de la forêt de Compiègne par Rockefeller. Alors, le comte Dunouis, dont je vous ai parlé, comme je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, va devenir son collaborateur. Alors, la guerre terminée, Alexis Carrel regagne les États-Unis, d'où il va revenir en avion se mettre de nouveau au service de son pays en 1939, avec la nouvelle guerre. Le gouvernement du maréchal Pétain fait appel à son dévouement à ce moment-là et lui confiera en 1941 la création et la direction d'une œuvre strictement scientifique, l'Institut de la science humaine. C'est aux enfants et aux jeunes, plus ou moins affaiblis là, par les privations puis les déracinements de la guerre, que l'Institut se consacre de préférence. Or, à la Libération, en 1945, quelques super patriotes, non contents de supprimer l'Institut, vont jusqu'à traiter Carrel de suspect, imaginez, le maréchal Pétain. Et ils lui font expier l'activité désintéressée qu'il a déployée au service de son pays, la France. Sa santé déjà précaire ne résiste pas à cette épreuve épouvantable, injuste. Et l'injustice des hommes l'aide quand même à se détacher de son moi, de son égo, à se dépouiller. L'étude des grandes crises sociales contribue à libérer l'âme de Carrel. Comment ça? On peut le constater par ses livres. Quelques ouvrages universellement connus marquent les étapes de cette ascension. C'est d'abord « L'homme, cet inconnu », ouvrage extrêmement connu, je m'excuse, publié en 1935 chez Plomb. C'est un succès immense, hein, 18 traductions en peu de temps. Un volume posthume, comme je vous ai dit au début de l'émission, Réflexion sur la conduite de la vie, que je ne vous recommande pas parce qu'il y a des éléments racistes là-dedans et étranges. La conversion de Carrel a été très lente, et sa prise de conscience de l'essence même de l'Évangile a pris du temps. Il est paru ça en 1950, après sa mort, donc. Et ça reprend et complète les thèses majeures de l'ouvrage précédent, L'homme, c'est inconnu. Mais jamais le caractère inhumain de notre civilisation matérialisée n'avait été dénoncé, même par Bergson, avec cette énergie. Il faut quand même lui donner ça. L'homme, dans ce monde mécanisé, orienté vers le gain et la jouissance, est malheureux. Pourquoi? Mais parce qu'il rejette tout simplement la primauté de l'esprit. Notre civilisation s'est barbarisée, dit-il. Nous n'avançons pas, nous reculons, et seule la vérité nous délivrera. On répète, connais-toi toi-même, sois bien dans ta peau. Or, nous ne nous connaissons plus. Cela, pourquoi? Par la faute de l'école, la petite école, qui est devenue une machine à déformer, dit-il, et par la faute d'une politique, d'une sociologie ignorante des valeurs spirituelles, surtout. Hein. Quand osons-nous nous référer à Dieu en public? On fait ça aux États-Unis, hein? God bless you, etc. Mais ici, jamais. Jamais. Les maladies mentales sont plus nombreuses que toutes les autres maladies réunies. Nos malades mentaux sont livrés à eux-mêmes et tellement nombreux. La religion du confort et de la platitude, chaque jour élargie par les nécessités artificielles qu'on se crée, aboutit à la pire prolétarisation, comme il dit, celle de l'esprit. Le matérialisme, selon lui, conduit au même résultat que le capitalisme libéral. C'est l'appât du gain qui mène le bal. Et en oubliant la nécessité de l'effort, eh bien, nous poussons l'homme vers ce qu'il appelle l'idiotie intellectuelle, qui ne distingue plus le vrai du faux. Et ce qui est pire, comme il le dit, vers l'idiotie morale, qui ne distingue plus le bien du mal. Tout est permis au nom de la liberté. Sauf certaines rares choses condamnées par le « politically correct », comme on dit aujourd'hui. Le salut de l'humanité est-il encore possible? Eh bien, oui, concluent les deux volumes du docteur Alexis Carrel. Pour construire l'homme, il faut utiliser les puissances du cœur et du sentiment. Les religions, et particulièrement le christianisme, dit-il, mais surtout les puissances de l'intelligence, la science. Conclusion pour le moins imprévue après le procès que l'on vient de lire de la science. Hein? Mais au vrai, Carrel, en ses deux ouvrages, demeure inconsciemment prisonnier de cette nouvelle idole qui est la science expérimentale. Ça lui prend du temps de se convertir vraiment. À ce mot même de science, il continue de donner un sens abusif. Il exagère. Il comprend pas. Ça lui prend du temps. Étymologiquement, le mot « chiré » signifie « savoir » en latin. Or, comme Carrel le constatera plus tard, un saint Jean de la Croix, un saint Vincent de Paul, un saint Jean-Baptiste Marie Vianney, curé d'Ars, tous les grands mystiques, dont je vous parle continuellement, en savent beaucoup plus sur les grandes réalités, c'est-à-dire sur l'homme, sur Dieu, sur la destinée, qu'un physiologiste ou un sociologue même titulaire du prix Nobel. N'oublions jamais ça. Son petit volume, La prière, paru chez Plon en 1944 et continuellement réédité, on le trouve en librairie, La prière du docteur Alexis Carrel, marque une nouvelle étape dans l'évolution spirituelle de Carrel. En voici un extrait. Il écrit, « Il est honteux de prier, assure Nietzsche. » En fait, répond Carrel à Nietzsche, il n'est pas plus honteux de prier que de boire ou de respirer. L'homme a besoin de Dieu, comme il a besoin d'eau et d'oxygène. L'influence de la prière sur l'esprit et le corps humain est aussi aisément démontrable que la sécrétion des glandes. Ses résultats se mesurent à un accroissement d'énergie physique, de vigueur intellectuelle, de force morale, à une compréhension plus profonde des réalités fondamentales. Et c'est curieux que les savants le disent encore aujourd'hui. Il y a des articles qui paraissent depuis un an ou deux qui nous disent que la prière est très efficace sur ce plan-là. En somme, bref, la prière doit avoir une place de choix dans le sauvetage de la civilisation, puis il était nécessaire que ces choses-là soient dites par un grand savant comme le docteur Alexis Carrel. Mais il faut avouer ici encore, Carrel demeure à mi-chemin de la vérité. Il a bien le droit de louer la prière du musulman, du bouddhiste, l'esprit scientifique dont il se réclame voudrait qu'il se demande, oui ou non, existe-t-il une prière authentiquée par la révélation? Une prière qui doit se traduire par des actes, comme nous le rappelle Saint Jacques dans son épître magnifique. Avez-vous lu ça, l'épître de Saint Jacques, tout le monde? Ah, c'est fantastique. Alors, une prière qui doit se traduire par des actes, des pratiques. Pas nécessairement d'aller à la messe, c'est pas ça que j'entends. Il y a ça, oui, c'est très important. Mais la pratique dans le sens aussi complet du mot. Dont l'Église, après l'Évangile, nous fait une loi. Il faut mettre en pratique ce à quoi on croit. Je m'excuse de poser des questions à mon auditoire, mais il me semble que le père Albert Bessières, qui a écrit ces textes, pose des questions qui sont très importantes aussi, dans le même sens. Et la réponse à ces problèmes, nous la trouvons enfin dans le journal et les méditations annexées au voyage de Lourdes. Voilà un Carrel inconnu, inconnu même de ses amis. Alexis Carrel est alors âgé de 65 ans, parvenu au sommet de sa carrière scientifique. Et il est à peu près revenu au credo de son enfance. Je dis à peu près car il n'a pas encore compris entièrement la nécessité de ce que nous appelons la pratique religieuse. Voici justement des passages de ce journal des méditations où Carrel nous livre son âme. Il dit à un moment donné « Que chaque minute de ma vie soit consacrée à votre service, Seigneur. Dans l'obscurité où je trébuche, je vous cherche sans cesse. » À Noël 1939, il écrit « Oh mon Dieu, combien je regrette de n'avoir rien compris à la vie, d'avoir essayé de comprendre des choses qu'il est inutile d'essayer de comprendre. » Il dit aussi « Parlez, car votre indigne serviteur écoute. Il vous offre ce qui lui reste. Il vous fait le sacrifice volontaire de sa vie, comme une prière. Il vous demande de le mener dans la vraie voie, la voie des simples, de ceux qui aiment et qui prient. Pardonnez-lui toutes les fautes de sa vie. À lui, qui est si complètement ignorant, ajoute-t-il, donnez la grâce de la lumière. Et voici une belle petite prière. Ô mon Dieu, dans ce jour qui commémore la naissance de votre Fils, je fais, en vous l'abandonnant l'abandon total de moi-même, avec le regret infini d'avoir passé comme un aveugle à travers la vie. » Le 12 février 1940, à Paris, il écrit « Quelle immense erreur que celle de notre civilisation! Oh mon Dieu, combien il est terrible de ne pas suivre votre loi! À peine aujourd'hui, j'arrive à comprendre ce que j'aurais dû comprendre dès mon enfance. La vraie signification de la loi de Jésus, la loi d'amour, d'abnégation, de dévouement, de sacrifice. Et écoutez bien ceci qu'il écrit le 16 décembre 1940. Quel aveuglement des intellectuels. Moi-même, je n'ai pas compris. L'immense erreur de la civilisation présente a été de donner la primauté au développement intellectuel et social. Or, nous voulons connaître le sens de la vie, c'est ce que nous voulons connaître. Il nous est impossible de conduire notre vie si nous ne savons pas ce qu'elle signifie et ce que signifie la mort. La mort dont je vous ai parlé avant-hier le 2 novembre. En octobre 1943, il semble prévoir sa mort prochaine, ce cher docteur Alexis Carrel. Il l'accepte paisiblement, non sans ajouter cependant, il dit ça, « Je souhaite que Dieu m'accorde encore 10 ans de travail. Avec ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté, je crois que j'arriverai à établir scientifiquement les rapports objectifs du spirituel et du matériel et à montrer ainsi la véracité et la bienfaisance du christianisme. » Alors, dès lors, comment expliquer l'illogisme déjà signalé? Comment un homme si profondément religieux reste-t-il étranger à ce que nous nommons la pratique? Ce n'est pas respect humain. Non. Quand il est en France, il assiste chaque dimanche à la messe. On pourrait croire, pour essayer de donner une explication. C'est quelqu'un qui le connaît bien, qui m'a expliqué ça. Il dit, il avait si souvent constaté que la pratique chez beaucoup n'était que routine et formalité. Le docteur Carrel pensait ça. Bah, la pratique, chez beaucoup, ce n'est que routine et formalité. Il disait aussi que des gens très pratiquants n'étaient aucunement chrétiens parce que pour eux, la pratique seule comptait. Pratique qui n'influait aucunement sur leur vie intérieure, leur vie intérieure. Si le synode peut nous révéler à nous tous que notre vie intérieure est plus importante que qui que ce soit et que la vie de Dieu en nous est plus importante que quoi que ce soit, nous aurons fait un grand pas. C'est ce qu'il trouvait de dommage dans notre Église, le manque de vie intérieure, même chez ceux qui pratiquent. Il en était venu, lui, à n'attacher à cette pratique aucune importance. Quel dommage! Il n'en voyait aucunement la nécessité. Pour le docteur Carrel, la religion était autre chose que cela. C'était l'adoration de Dieu, en esprit et en vérité, qui seul importait, je suis absolument d'accord, mais aussi au sein de l'Eucharistie. Et comme, pendant de longues années, les circonstances lui ont rendu la pratique impossible moralement, ben il a modelé autrement sa vie religieuse et il en est resté jusqu'à la fin de ses jours, où on lui a fait comprendre, enfin, qu'il y avait autre chose à faire. Quand on l'a averti qu'il était temps de recevoir les derniers sacrements, il s'est confessé. Avec beaucoup d'ardeur, il a reçu le Saint Viatique, ou si vous voulez, la Sainte Communion, et l'extrême-onction, ou le sacrement des malades, si vous préférez. Ce qu'il a fait, dit-on, avec la simplicité d'un enfant. C'est Monseigneur à Mayon qui lui a conféré ces sacrements, qu'il dit qu'il l'a fait avec la simplicité d'un enfant, le docteur Carrel, prix Nobel. Après avoir ainsi entièrement retrouvé la foi et la pratique de sa jeunesse, Alexis Carrel meurt à Paris le 4 novembre 1944, âgé de 71 ans. C'est donc l'anniversaire aujourd'hui. Cette fois, des humbles, eh bien, Carrel, après la guérison miraculeuse de Marie Bailly, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il l'a demandé à Dieu, à la Sainte Vierge. « Le monde se meurt de ne pas voir Dieu », a déjà écrit Paul Bourget. Et c'est cela que le message de Carrel nous redit. Il était au courant de cette parole, car on parlait beaucoup de Paul Bourget dans sa jeunesse. Déjà dans « Réflexion sur la conduite de la vie », cet ouvrage où les erreurs, comme je vous ai dit, voisinent encore avec les vérités, il y a du racisme là-dedans, il y a même de l'eugénisme, eh bien Carrel écrivait sur la destinée humaine « La réponse de la foi est incomparablement plus satisfaisante que celle de la science ». Il n'y a pas d'hésitation à dire ça. Nous savons tous ça. La réponse de la foi est incomparablement plus satisfaisante que celle de la science, qui ne nous enseigne rien finalement, car la science ne fait que constater. Avec les grandes découvertes de l'espace, nous découvrons qu'il y a des milliards de galaxies. Ça ne nous enseigne pas comment vivre. Quand on nous enseigne comment est formé les infiniment petits, le cœur des atomes. Ça ne nous dit rien sur le sens de notre vie, mais ça peut nous permettre de tomber à genoux en adoration devant ce Dieu qui a tout fait ça et qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ et qui s'est fait humble et petit. La mort du docteur Carrel, qui a été humblement et courageusement chrétienne, apporte donc aux paroles fondamentales de ses écrits, un commentaire auprès duquel tout le reste est silence. La réponse de la foi est incomparablement plus satisfaisante que celle de la science. Il écrit dans son livre La Prière, pour quelle raison, le sens du sacré, joue-t-il un rôle aussi important dans la réussite de la vie? Par quel mécanisme la prière agit-elle sur nous? Ici, nous quittons le domaine de l'observation pour celui de l'hypothèse. Mais l'hypothèse, même hasardeuse, est nécessaire au progrès de la connaissance. Il faut nous rappeler d'abord que l'homme est un tout indivisible composé de tissus, de liquides organiques et de conscience. Il n'est donc pas compris entièrement dans les quatre dimensions de l'espace et du temps. Car la conscience, il réside dans nos organes, se prolonge en même temps hors du continuum physique. et d'autre part, le corps vivant, qui nous paraît indépendant de son milieu matériel, c'est-à-dire de l'univers physique, en est, en réalité, inséparable, car il est intimement lié à ce milieu par son besoin incessant de l'oxygène, de l'air et des aliments que lui fournit la Terre. Ne nous est-il pas permis de croire que nous sommes plongés dans un milieu spirituel dont nous ne pouvons pas davantage nous passer que de l'univers matériel, c'est-à-dire de la Terre et de l'air. Et ce milieu ne serait autre que l'être immanent dans tous les êtres et les transcendant tous, que nous appelons Dieu. Il y a un danger de panthéisme là-dedans, mais nous ne sommes pas panthéistes. La prière pourrait donc être considérée comme l'agent des relations naturelles entre la conscience et son milieu propre, comme une activité biologique dépendant de notre structure. En d'autres termes, comme une fonction normale de notre corps et de notre esprit. Oui, la prière est une fonction normale.